Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager. De transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions.
Bienvenue dans Tout sur elle. Aujourd'hui, c'est un petit peu d'émotion pour nous parce que non seulement c'est notre premier épisode, mais en plus, c'est le premier épisode d'une série qu'on a décidé de faire sur le postpartum en 8 épisodes qui va s'appeler « Le postpartum dure 3 ans ». Anna a d'ailleurs écrit un ouvrage best-seller à ce sujet avec Caroline Michel. Il est hyper bien fait et il donne plein de conseils, et je dis pas ça parce que t'es devant moi. Il s'appelle « La vie rêvée du postpartum ». Anna, on va proposer 8 épisodes et c'est assez représentatif de la complexité et de la diversité du sujet. Dans ce premier épisode, tu vas nous expliquer en quoi, pour toi, le postpartum dure 3 ans. Tu te doutes bien, je suis obligée de te demander c'est quoi la définition scientifique du postpartum ?
Oui, il faut commencer par là. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais commençons par là, effectivement. Pour la science, le postpartum, c'est la période qui va de la délivrance, donc de la sortie du placenta, jusqu'au retour des règles, donc jusqu'au retour de couche. Donc déjà, scientifiquement, on voit que c'est pas une durée standard. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez choisi de pas allaiter au sein, vous allez avoir vos règles le plus souvent 6 semaines après l'accouchement. Pour une femme qui allait, ce sera 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement. Et encore, quand je dis 6 semaines, c'est même pas vrai, parce que la plupart du temps, c'est même 3 mois ou 4 mois ou même un peu plus. Donc en fait, cette durée, elle est extrêmement variable. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'elle est extrêmement variable selon les femmes et que donc cette définition-là n'a pas de sens réel. Entre toutes les femmes d'une même assemblée, elles auront un postpartum scientifique totalement différent. Cette réalité-là, du coup, n'est pas tellement tangible pour les femmes et pour les gens qui les entourent. Donc c'est intéressant, pour les sages-femmes, pour les médecins, ceux qui font du suivi gynécologique. Et aussi un petit peu intéressant pour vous, parce que c'est vrai que quand on retrouve ces cycles normaux, menstruels en tout cas, il se peut qu'on retrouve des sensations physiques et corporelles un peu différentes. Mais en tout cas, je vous propose qu'on oublie cette définition. Voilà, on oublie cette définition. Vous l'avez en tête, mais on l'oublie.
Le seul truc que ça nous dit, cette définition, c'est que c'est le retour de la fertilité, quoi.
Alors, même pas. Et alors ça, très bien que tu poses cette question, Nina, parce que même pas, c'est ce que les gens croient. Ils croient que tant qu'on n'a pas ces règles, on peut pas être enceinte. Alors non, attention. C'est hyper... un peu comme une anguille, la fertilité du postpartum. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être enceinte alors même qu'on n'a pas ces règles. On peut ovuler, considérer qu'on peut ovuler un peu n'importe quand. Il y a des femmes, des génies qui arrivent à savoir quand elles ovulent alors qu'elles sont en postpartum. Moi, par exemple, qui suis quand même pas trop mauvaise, j'ai jamais réussi à savoir quand j'ovulais. Sortez-vous ça de la tête. J'ai pas de règles, mais peut-être j'ovule. Hein. Donc si vous voulez un autre enfant, c'est merveilleux, mais peut-être vous avez pas envie d'un autre enfant tout de suite, donc sachez-le. On en reparlera de ça, bien sûr, évidemment.
Et pour toi, alors, c'est quoi le postpartum ?
Waouh ! C'est waouh ! Pour moi, il y a, dans la vie d'un individu, il y a la naissance, le postpartum et la mort. Donc vous voyez à quel orange je place ça. Pour moi, c'est un renversement de l'existence total. Il y a un bébé qui naît, mais il y a aussi des parents qui vont naître et qui vont changer complètement, bouleverser. Vous savez, pour moi, c'est, vous qui nous écoutez, c'est comme un reset. C'est affreux de dire ça, mais il y a des maladies graves qui peuvent faire un reset sur les personnes. Il y a des gens qui disent, après cette expérience de maladie-là, toute ma vie a été chamboulée. Et bien là, on peut dire que c'est un reset, mais un reset heureux. Et donc, oui, je vais parler de choses hyper désagréables, mais dites-vous, ah, c'est un reset heureux. Je vais revoir tout dans ma vie, mais en même temps, c'est sympa. Donc, c'est un truc... énorme, c'est énorme. Le postpartum, c'est énorme.
Et en fait, toi, ta définition, c'est aussi de dire, j'imagine, que c'est super complexe.
on va quand même en faire 8 épisodes, je rappelle. Et en plus que c'est très différent en fonction des vécus de chacune.
Oui, c'est complètement différent selon, effectivement, chaque femme. Pourquoi ? Parce que si vous avez un bébé malade, si vous n'avez pas de domicile fixe, si vous avez, je sais pas, si vous avez déjà 5 enfants ou que vous en avez pas encore, enfin, chaque femme est profondément unique. Et donc, je voudrais dire qu'il n'y a aucun postpartum qui se ressemble. Et pourtant, c'est une expérience où on est toutes profondément unies dans cette expérience. C'est très bizarre. C'est un peu comme la mort, en fait. C'est-à-dire que à la fois, c'est très spécifique pour chacun des situations, et en même temps, c'est une expérience qui nous rassemble profondément, une expérience humaine très, très riche. Le « je deviens mère », c'est un changement complet de son existence, parce qu'avant, on vivait pour soi avec la responsabilité de soi-même, et là, on va vivre aussi pour quelqu'un d'autre avec la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, on oriente complètement sa façon de penser. Donc, c'est à la fois très différent pour chacune, et en même temps, profondément la même chose pour nous toutes.
On entend aussi des expressions comme il y a le mois d'or, il y a le quatrième trimestre, il y a 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire. Qu'est-ce qu'on t'en pense de ces expressions qui ont cours pas mal aussi sur les réseaux sociaux ?
Je trouve que ce sont des expressions merveilleuses parce que ce sont ces expressions, et avec tout le travail qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a en plus derrière ces expressions, ces choses-là qui ont permis de démocratiser le postpartum.
Donc, le mois d'or, c'est l'équivalent
du premier mois.
OK.
Le quatrième trimestre, c'est de dire, il y a 3 trimestres à la grossesse, on en rajoute un avec le quatrième trimestre post-accouchement. 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire, c'est de se dire, on va récupérer de la naissance, on va sortir la tête de l'eau au bout de 9 mois, grosso modo. Et donc, toutes ces expressions-là, qui ont d'ailleurs été créées par des femmes, hein, disons-le, génial en fait. Génial parce qu'elles disent, ça existe ce sujet. Moi, je me rappelle avoir écrit un texte en 2014 sur le postpartum, qui est pourtant profond. Il n'a pas été entendu, pas écouté. Et c'est grâce à ces femmes-là que, tout d'un coup, le postpartum sort de l'ombre. Elles ont permis ça. Ça, c'est génial. Après, attention, c'est-à-dire que moi, ce qui me gêne là-dedans, si j'avais un petit critique, j'ai rien à redire, mais je dirais juste que pour moi, ça dure 3 ans. C'est que c'est beaucoup plus long que ça, parce que je vois bien que les femmes, aux 18 mois de l'enfant, par exemple, sont des fois beaucoup plus fatiguées, beaucoup plus mal corporellement qu'elles ne l'étaient, en fait, 3 mois après l'accouchement. Donc moi, j'élargis juste en disant, ça dure 3 ans. Mais ça reste vrai que le quatrième trimestre existe, que le mois d'or existe, etc. C'est pas du tout en concurrence ou au contraire. Merci à toutes ces femmes.
Et toi, donc, le fait de dire « ça dure 3 ans », c'est de dire « au bout de 3 ans, on sort la tête de l'eau ».
Ouais. Moi, je me rappelle, un jour, je suis sortie de la gare Montparnasse et tout d'un coup, corporellement, tout, j'avais retrouvé l'énergie d'avant. Et je me dis « tiens, c'est bizarre, pourquoi je me sens aussi bien que ça ?» Et en fait, ça correspondait à la fin de mon postpartum. Je crois qu'il y a un moment, et je voudrais tout de suite vous rassurer. Oh, waouh ! On redevient, en fait, normal. On n'est pas vieilli à jamais, épuisé à jamais. Ça va passer. Il y a des femmes qui vont avoir postpartum peut-être plus court, d'un an et demi, super. Mais quand même, pour la plupart des femmes, c'est 3 ans. Ça veut dire que si vous remettez le couvert, comme j'ai fait moi, par exemple, très intelligemment, eh bien, moi, j'ai un postpartum qui a duré 5 ans. Mais j'ai une patiente, toujours, ça fait, elle multiplie. Je crois qu'elle est enceinte du 6e, là, maintenant. Ben, ça fait 12 ans qu'elle est en postpartum.
Et justement, toi, cette période du postpartum, c'est une période, je sais, qui t'intéresse énormément. Dis-moi, c'est le cas de la médecine de manière générale ?
Non, pas du tout. Moi, je voudrais vous raconter le début de mes études, les études et puis même de mon exercice hospitalier. Les suites de couches, c'est le rebut. C'est le service à l'hôpital dans une maternité où on va, genre, quand on est crevé, « Ah, ma pauvre, tu vas passer 3 mois en suite de couches » ou « Je vais me reposer 3 mois en suite de couches ». Voire, je pourrais même dire, si j'étais encore plus provocante, que c'est le parent pauvre de l'obstétrique. Personne ne s'intéresse au postpartum. Ou très peu de gens. Mais même moi, je le confesse, au départ de mes études, c'est vrai que mon exercice hospitalier, c'était tellement excitant l'accouchement, tellement excitant les grossesses pathologiques et ces services-là, que le postpartum, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et puis tout le monde me disait, non mais de toute façon, c'est des mères et des bébés, voilà, c'est bon, c'est tout fait, voilà. Et en fait, c'est, pour moi, le service peut-être le plus passionnant. Mais ça a été un renversement, c'est pas été tout de suite, et c'était aussi en faisant en libéral que j'ai compris ça, que c'était en allant voir les gens à domicile, que en fait c'était passionnant, ce sujet du postpartum. Donc non, pour la médecine, c'est pas un sujet important. Mais peut-être de plus en plus, j'ai vu qu'il y avait un livre qui est par exemple un livre sérieux, je veux dire médical, qui était sorti sur le postpartum. Je me suis dit, ah, tiens Donc je désespère pas que ça change aussi pour la médecine.
Mais peut-être aussi, rien que ce terme, postpartum, je suis pas une spécialiste de l'étymologie, mais c'est juste que ce truc de post, ça donne vraiment l'impression que genre, bon, le plus dur est fini, on est dans le post, là, on est dans l'après, on est dans le...
C'est pas faux ce que tu dis. Alors même que c'est le début, t'as raison. Mais t'as raison, j'avais jamais vu le postpartum comme ça. C'est vrai que ça dit postpartum, post-parturition, post-accouchement. T'as raison, et puis même en médecine, nous, on dit suite de couches. T'as raison, alors que c'est le début.
La médecine, qui donc ne jette un œil que partiellement intéressé à ce moment-là de la vie d'une femme, en revanche, les pouvoirs publics...
Sérieusement, non, c'est une catastrophe. Les femmes, ce qui est drôle, c'est que sur le seuil de la maternité, quand elles ont accouché, on dit au revoir madame, et en leur sous-entendant que ça y est, c'est fini. Et donc les femmes y croient. Et en fait, elles se disent, non mais attends, what the fuck, c'est là où tout commence, et c'est là où elles sont jetées dans le vide. Parce qu'autant, la grossesse, il faut quand même le dire, en France, on est très surveillé médicalement. Enfin vraiment, il y a échographie, consultation, prise de sang, préparation à la naissance et à la parité. Et vraiment, les femmes sont peut-être pas bien entourées, mais en tout cas, il y a du soutien, il y a du backup. Là, c'est « Allô ? Allô, 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 il y a quelqu'un ?» Non, plus sérieusement, non, il y a quelques pauvres visites de sages-femmes à la maison, des centres de PMI.
Mais on ne sait pas forcément en plus. Les mères
sont informées. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en plus, tout ça, on n'a même pas au courant que ça existe. Mmh. Donc non, la plupart des femmes, elles se disent « Mais attendez, mais moi, c'est comme si on les lançait dans l'océan et qu'on leur disait « Bon, bah, allez, tu rejoins l'île qui est là-bas au bout et tu te mets toute seule. » Non, c'est hyper chaud. Pour moi, le symptôme un des plus criants, c'est on dit qu'au bout de 2 mois et demi, next, en 2 mois et demi, tout est fait, donc vous pouvez reprendre le taf. Ah bon ? Ça dit ça, le pouvoir public. Après, moi, je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est-à-dire que peut-être aussi que c'est à cause de profondes modifications de la société aussi. Je pense que peut-être que l'évolution de la cellule familiale, ou peut-être qu'avant, les grands-parents étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus aidants, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas dire, c'était je veux pas jeter la pierre à quiconque. Je dis, voilà, on est saisi là d'un problème, d'un enjeu, saisissons-nous, sans essayer de voir à qui la faute. C'est pas très intéressant, en fait, ces débats-là. Donc, voyons vers l'avenir et voyons comment on peut améliorer les choses.
Qu'est-ce qu'il faudrait, du coup, développer pour que les femmes, elles soient mieux accompagnées de manière générale dans cette période du postpartum ?
Bon, bah alors là, je vais pas ennuyer les gens, mais effectivement, j'ai une centaine de propositions, d'idées. La meuf hyper sérieuse.
Mais c'est vrai.
Le pire, c'est que c'est vrai.
Le pire, c'est qu'elle dit la vérité.
C'est que c'est vrai, c'est que j'ai une centaine d'idées, mais par exemple, évidemment, le congé maternité, bon, faut tout revoir. Donc moi, j'ai l'idée que c'est minimum 6 mois renouvelable une fois, mais qu'on peut le reprendre avant, mais qu'on peut donner un peu de ce temps à quelqu'un de la famille. Bon, j'ai plein d'idées. Le fait que, par exemple, il faut qu'elles aient une aide-maman à domicile. Une aide-maman, c'est moche comme terme, mais quelqu'un qui vienne les soutenir à domicile pendant, en plus de la sage-femme qui vienne, qu'elle vienne faire le ménage, les aider à faire, etc. Enfin, j'en ai des milliards d'idées.
Mais d'ailleurs, il y a un pays dans lequel ça fonctionne, et je ne vais pas y arriver à prononcer
la Kramzorg, mais moi aussi, je crois que je ne prononce pas bien. Voilà, ce sont des aides-mamans, exactement, c'est aux Pays-Bas. Toutes les femmes en bénéficient, et c'est une femme qui vient, allez, je dis n'importe quoi, de 9h à 16h pendant un certain nombre de jours, et qui va laver les toilettes, donner des conseils pour le bébé, préparer des repas, etc. En plus donc du suivi sage-femme qu'elles ont à domicile. C'est génial. Objectivement, c'est génial. Et en plus, en France, ce serait hyper adaptable parce qu'on a des professionnels ultra compétents, des auxiliaires de puériculture, des aides-soignantes, toutes ces gens-là. Il faudrait leur donner un module complémentaire et paf, on aurait ça. Et les gens me disent « Ah ouais, mais alors voilà, toi, tu prends l'argent public et tu le fous par les fenêtres. » Pas du tout. Pas du tout parce que, en fait, les Kramzorg, vous pensez pas que les Pays-Bas sont suicidaires. C'est que ça fait gagner de l'argent. Les gens vont moins aux urgences, il y a moins de dépression, il y a moins de blabli, blabla. En fait, ils gagnent de l'argent. Il y a le coût humain et il y a aussi le coût économique. Et moi, je ne l'oublie pas, je ne suis pas une folle dingue. Justement pas. Et donc, toutes les mesures que j'ai, la centaine de mesures pour le postpartum et le devenir parent, il n'y a aucune mesure qui soit délirante sur le plan économique. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je ne suis pas du tout une farfelue, moi. Je ne suis pas du tout la meuf qui veut tout foutre par terre, la révolution et tout ça. Pas du tout.
Vraiment pas la seule à être aussi passionnée par le sujet. Il y a plein de hashtags, il y a des comptes Instagram, Twitter et probablement TikTok qui fleurissent. Est-ce que tu as des recommandations? Et on les mettra aussi dans le descriptif de l'épisode.
Oh là là, oui, il y a des femmes exceptionnelles qui ont parlé de ça. Exceptionnelles. Il y a Ilana Wiesmann qui a été à l'origine avec une autre femme du hashtag Mon Postpartum. Il y a Ingrid Bayo qui est un génie méconnu. En tout cas, pas méconnue, mais pas assez connue, qui a été la première, qui est une sage-femme, qui a parlé de tout ça, la première. Il y a Céline Chadella du Mois d'Or, et je ne veux même pas commencer à faire la liste, parce que, en fait, je vais en oublier. Mais en tout cas, bien sûr, elles sont très nombreuses. Et ce qui est drôle, et ça, c'est vraiment amusant, c'est qu'on se nourrit toutes les unes les autres. On ne dit pas du tout les mêmes choses, forcément, mais tout ce qu'on dit de façon unique a beaucoup d'importance.
Et ce que ça crée aussi, c'est que ça permet aux femmes de ne pas se sentir seules.
de pas avoir l'impression d'être la seule à vivre
ça
clair. Comme ça quoi.
Et puis en plus je parle de ces femmes, il y a aussi toutes les inconnues, c'est tout, j'aime pas dire ça, mais il y a aussi des femmes qui dans l'anonymat font aussi beaucoup de bien dans les PMI partout, des professionnels et des non professionnels aussi qui ont bien cette conscience que c'est très important cette période-là.
Pour parler du postpartum, tu parles carrément d'ébranlement identitaire majeur. Qu'est-ce que t'entends par là ? T'exagères pas ? C'est pas ton genre d'exagérer, en tout cas.
Non, j'exagère pas du tout. Pour moi, c'est... bam ! C'est une détonation énorme et vous allez changer de... Vous allez muer. C'est vraiment une mue. Donc, vous devenir quelqu'un d'autre et parce que ça va affecter tous les pans de votre existence. Il n'y a pas un pan de votre existence qui ne va pas être affecté. Affecté, c'est pas le bon mot parce que ça peut être mieux. Donc, qui va être chamboulé, bouleversé. Le corps, la tête, la famille, le porte-monnaie, le travail, la vie quotidienne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les fleurs dans le jardin. Non, peut-être pas, j'exagère là un peu, mais vous voyez, il n'y a rien, la vie affective et sexuelle, il n'y a rien qui ne va pas être impacté par l'arrivée de cet enfant et par le fait que vous avez accouché. Donc, ouais, c'est majeur, c'est majeur, c'est majeur. Et c'est aussi bien que c'est compliqué.
Toi, tu vois aussi des gens qui... change de travail après avoir eu un enfant, change la manière de vivre leur relation. Enfin, on parle de changements peut-être petits, mais aussi de changements vraiment majeurs.
Ah, mais des changements énormes. Plein de femmes qui sont médiatisées aujourd'hui, c'est le fait qu'elles aient accouché qui a complètement changé leur rapport au travail et qui ont c'est des trajectoires. En fait, il y a un changement de trajectoire. Et encore une fois, c'est une chance d'avoir ce reset-là dans sa vie. Putain, c'est génial. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir eu ce reset-là. Chez moi, ça a opéré des profondes... C'est-à-dire, mon hashtag « Je suis maltraitante » qui a fait tant couler d'encre et tout ça, c'est grâce à mes enfants aussi. J'ai mesuré à quel point, putain, on pouvait pas saloper l'accouchement. Je le savais, j'étais sage-femme. Mais le fait d'avoir accouché moi-même, non, en fait, on n'a pas le droit, quoi. Mon engagement aujourd'hui, qui... Il y a un engagement militant pour certains, ou lanceur d'alerte, ou je sais pas ce qu'on veut que je sois. Ça m'est égal, c'est pas à moi de décider, mais... Mais il vient de là. Il vient du fait que bah, je me suis rendu compte que c'était un truc énorme, quoi.
D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on y consacre 8 épisodes entiers de Tout sur elle, aussi et un peu parce que, bah, on l'a dit, ce sujet, il te passionne complètement. Qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet-là ?
Alors, absolument tout. C'est-à-dire, et bien sûr, il faut quand même que je prévienne les gens, je me substitue en rien à une consultation médicale. Je veux juste créer des petites étincelles dans votre tête qui disent « Ah !» et vous souvenir. J'aimerais être un compagnon de route, comme des fois je le suis un peu avec mes patientes. Je pourrais pas l'être autant, mais moi j'adore dire que je suis un Sherpa. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, c'est vous qui allez gravir la montagne, mais que moi je vais essayer d'attraper vos bagages, de vous filer de l'eau quand il faut, de vous dire attends, passe plutôt par là parce que là il y a un ravin, un sale ravin, donc passe par là. Moi c'est ça que j'aime, c'est être un Sherpa. Et donc je vais être un mini Sherpa là en faisant ce podcast. Quand je suis avec mes patientes, je suis un vrai Sherpa, mais là je vais être un mini Sherpa. Une femme parmi les femmes que j'ai citées là, une femme parmi les femmes qui vous aide à avancer dans ce chemin tumultueux, parfois.
Et donc cet épisode, en fait, c'est plus un épisode introductif qu'autre chose.
Totalement.
Dans les 7 prochains, de quoi on va parler ?
Et bah, de tout ça, de toutes ces facettes, la famille, le corps, la tête, la vie affective, le quotidien, blabla, le porte-monnaie, tout ça. En fait, on va essayer d'interroger sur chaque angle de ce postpartum. Et voilà.
Vous venez d'écouter le premier épisode de notre série « Le postpartum dure 3 ans ». On est dans le podcast « Tout sur elle ». C'est un podcast d'Anna Roy qui est réalisé par moi, Nina Pareja, et qui est produit par Acna Productions. On ne vous cache pas que ces épisodes ils ont été rendus possibles en partie par Mustela.
Et vraiment, je les remercie parce qu'ils l'ont fait sans attendre de contrepartie, ce qui m'a paru quand même assez dingue. Donc voilà, je les remercie d'autant plus facilement et aisément que c'était comme ça.
Et d'ailleurs, si vous avez apprécié ce premier épisode, jetez-vous sur le deuxième qui est consacré au postpartum du corps et qu'on sort exactement en même temps pour que vous ayez les deux. Et puis si vous avez apprécié celui-là ou le prochain, n'hésitez pas à nous le dire, vous pouvez nous le dire à pas mal d'endroits. Vous pouvez nous le dire en commentaire, vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs, ce que vous voulez, ce que votre application de podcast préférée vous propose. Et puis vous pouvez aussi nous le dire sur Instagram, le compte d'Anna Roy c'est... tiré du bas ou underscore anna.roy et de nouveau tiré du bas ou underscore roy, ça s'écrit R-O-Y. Musique, Anno Domini Beat, Like That. À très bientôt.